Alors, bonjour à tous. Dans ma dernière séance de questions et réponses, j'étais en train de répondre à la question de Louis de Montera et la vidéo est devenue un peu trop longue et donc j'ai pas pu l'envoyer et donc j'ai dû en enlever des parties. Donc je pense que ma réponse du coup n'a pas été très complète. Peut-être que je peux commencer en disant quelques mots pour en quelque sorte résumer la réponse. Peut-être que le mieux, c'est que je lise à nouveau la question, de sorte que vous vous rappeliez de quelle question il s'agissait. Dans une séance précédente, Shantideva disait que lorsque nous étions agressés, c'était notre propre karma qui revenait. Cela ne me semble pas juste, en particulier quand je pense aux gens qui se battent pour les droits de l'homme et qui font face aux tortures dans les dictateurs. Est-ce qu'ils le méritent? Et de quel côté se trouvent les bouddhistes? Pouvez-vous expliquer? Et Rinpoche dit, là, cette question, elle vient d'une incompréhension totale de ce qu'est le karma pour les bouddhistes. Parce que, en fait, pour les bouddhistes, la question de savoir de quel côté sont les bouddhistes, elle se pose vraiment pas dans ces termes-là. C'est pas du tout ça la question. Quand on parle du karma, ce dont on parle, en fait, c'est de comment les choses se produisent, comment elles se manifestent, et qu'elles se produisent à partir de différentes causes et conditions qui ont chacune leur propre effet. C'est ça le karma. Et donc, si quelqu'un combat pour les droits de l'homme, ou quelle que soit sa cause, et puis si une dictature les torture, ou si beaucoup de choses négatives se produisent, par exemple dans le monde, et donc ça affecte tout le monde, ça affecte ceux qui se battent pour les droits de l'homme, et ça affecte aussi ceux qui ne se battent pas pour les droits de l'homme, eux aussi peuvent être affectés. Et donc ça, c'est la situation, et ça a ses propres causes et conditions. Parmi ces causes et conditions, il y en a qui sont plus proches, qui sont des causes et conditions plus immédiates, et d'autres sont plus éloignées dans le passé, sont plus profondes, et il est possible qu'on ne puisse pas comprendre tous les éléments qui constituent les causes et les conditions qui font qu'une certaine situation se mette en place. Et je pense que quand on parle de Shantideva, en fait, ça ne fait que parler de. Ce n'est là que pour dire que quand on est dans un état d'esprit comme ça, quand on est dans une situation difficile, c'est sur comment est-ce que je devrais essayer de réagir? Comment devrais-je faire? Comment devrais-je m'y prendre pour me rendre plus calme? Et pour être moins en colère, pour être moins haineux, pour être plus calme et plus clair. Ça n'est que de ça qu'il est question ici. C'est pas une question de qui est-ce qu'on soutient ou qui est-ce qui mérite la souffrance. En fait, il n'y a personne qui mérite la souffrance. Dans tout l'univers, il n'y a pas une seule personne qui mérite la moindre souffrance, et c'est tout le point, et c'est tout le cœur des enseignements bouddhistes que personne ne mérite la moindre sorte de souffrance. Donc, tout le monde doit faire en sorte d'essayer de faire quelque chose pour éliminer cette souffrance, cette douleur, ces problèmes et tout ce qui la cause. Et c'est là que doit porter notre effort, c'est ça qui doit être notre intention, c'est vers ça que doit se tourner notre pratique aussi. Et puis, il y a aussi la possibilité que nous puissions y parvenir à cette libération. Parce que, en fait, chacun peut se libérer lui-même de ses propres causes de souffrance. Il en a la possibilité, il peut le faire. Et donc, si quelqu'un peut le faire, tout le monde peut le faire, en fait. Et Ça ne veut pas dire que ça arrivera demain ou que ça arrivera l'an prochain. C'est pas ça l'idée non plus. Mais donc, c'est cette idée qu'il nous faut comprendre, c'est la première chose. Maintenant, pour en venir vraiment à la question, pourquoi est-ce que nous devrions se sentir responsables des actions des autres? Est-ce que ce n'est pas se blâmer soi-même et est-ce que ce n'est pas dangereux de penser ainsi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir responsable des actions des autres? Je ne pense pas qu'il nous faille nous sentir responsables des actions des autres. Parce que chacun doit être responsable de ses propres actions. Mais moi, je veux être libre de la souffrance, je veux trouver une paix et un bonheur durable. Et de la même manière, tous les autres êtres ont ce même souhait. Et donc, je voudrais aider les autres également. C'est ça le point. Et donc, je ne peux pas être totalement responsable de ce qui leur arrive parce que je ne peux pas faire les choses moi-même. Comme le Bouddha l'a dit, je ne peux pas prendre la souffrance des épaules de quelqu'un. Je ne peux pas les débarrasser avec mes mains de leurs choses, de leur négativité. Je ne peux pas les nettoyer de toutes les choses négatives avec de l'eau qui coulerait de mes mains. Je ne peux pas leur enlever leur karma négatif, leur cause, leurs émotions négatives, leur cause de souffrance. De même, je ne peux pas transférer, verser ma sagesse en quelqu'un d'autre. La seule chose que je puisse faire, c'est je peux enseigner aux autres, je peux leur montrer le chemin, de sorte qu'ils se deviennent capables de le parcourir par eux-mêmes, qu'ils puissent suivre mon chemin, qu'ils puissent suivre ce que je leur ai montré, mettre ce que je leur ai montré en pratique, et alors, ils pourront le faire par eux-mêmes. C'est ça la compréhension qu'a le Bouddha des choses. Et donc, personne ne peut rien faire complètement pour soi-même et surtout pas pour les autres. Nous pouvons aider, nous pouvons créer des circonstances, nous pouvons donner des conseils, nous pouvons devenir un exemple, nous pouvons aider de beaucoup de façons et c'est ça le point. Donc, je vais m'en tenir à ça. Et puis, la question suivante, c'est David Panacone, des États-Unis encore. Et quelle technique de méditation pourrait améliorer ma capacité à réduire la colère? Rinpoche dit, les gens ne sont pas tous exactement les mêmes. Et donc, dans ce texte, dans ce traité, le Bodhicharyavatara, tout au long du livre, mais en particulier dans ce chapitre sur la patience, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de façons de penser, beaucoup de façons de réagir qui sont indiquées, qui sont proposées. Il y a toutes sortes de pratiques qui sont suggérées ici. Et puis maintenant, pour certaines de ces pratiques pourraient être utile à quelqu'un et d'autres de ces pratiques pourraient aider quelqu'un d'autre. Et donc, il ne s'agit pas que de croire qu'il y aurait une pratique qui serait souveraine pour tout le monde pour réduire la colère. C'est pas comme ça. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'enseigner 36 000 techniques différentes. Une seule suffirait. Une seule instruction. Une seule instruction serait suffisante pour tout le monde. Mais les gens ne fonctionnent pas ainsi parce que les gens sont différents, les gens ont des compréhensions différentes, ils arrivent à progresser de manière différente, ils ont différentes histoires, différents passés, et donc il faut étudier différentes techniques et voir lesquelles marchent pour nous ou pas. Voir est-ce que l'une marche pour nous, et si elle marche, tant mieux. Si elle ne marche pas, bah, on essaye de faire autre chose. On peut essayer plusieurs choses différentes, mais fondamentalement, en fait, c'est vraiment à nous de voir. Et il faut pas croire que il suffira de faire une chose et que ça va tout régler. Il faut d'abord que je commence par comprendre, par la réflexion, pourquoi et comment la colère, et en particulier trop de colère, n'est pas utile pour moi, et pas utile aux autres, n'apporte que de la souffrance et rien de bien. Et puis, une fois que j'ai cette compréhension, bah, quand la colère arrive, quand je perds mes nerfs, effectivement, alors j'essaye de devenir conscient que cela est en train de se produire et j'essaye d'appliquer une certaine technique. Et ça pourrait être juste une chose, comme par exemple compter de 1 à 10, ou être simplement un peu conscient, ou simplement de se dire qu'à ce moment-là précisément, je ne devrais pas réagir. Et donc j'essaye de m'abstenir de réagir pendant quelques minutes. Et puis quand je retrouve mon calme, quand la colère est passée, alors je pourrais à nouveau réfléchir. Et puis je pourrais avoir une réaction qui est appropriée pour tout le monde. Donc il y a toutes sortes de choses et je pense que c'est important. Et maintenant, la question suivante, elle vient de Andreas. Donc c'est la question numéro 10. Est-ce que vous pourriez dire comment la patience est vue comme est méditée par un esprit du Hinayana, du Mahayana et du Mahamudra, et comment ces esprits se voient les uns les autres? Et Rinpoche répond, et je pense que c'est là quelque chose qui est très important de comprendre. Le Bouddha a donné différents enseignements à différentes personnes. Il a enseigné certaines techniques, et puis il en a enseigné d'autres qui étaient peut-être plus profondes ou qui allaient un peu plus loin. Et donc, il a donné énormément d'enseignements différents. Et plus tard, tous ces enseignements ont été en quelque sorte classifiés, classés dans ces trois véhicules. Donc, Hinayana n'est pas vraiment un très bon terme pour ça, c'est pas très approprié. On dirait Shravakayana, Bodhisattvayana, et puis parfois on dit le Mantrayana ou le Vajrayana. Donc, les enseignements ont été classés dans ces trois catégories. Mais, de nouveau, là encore, il est très important de comprendre que les enseignements du Shravakayana, ils s'adressent à tout le monde, absolument tout le monde. Ce sont les enseignements les plus fondamentaux, les plus de base. Et donc, tout le monde devrait les mettre en application. Il n'y a pas du tout la question de dire, moi, par exemple, pratiquant du Vajrayana ou pratiquant du Vajrayana, je n'ai pas besoin d'appliquer les enseignements du Shravakayana. Je n'ai pas besoin de comprendre ces enseignements. Ça serait tout à fait incorrect de penser ainsi. On ne devrait pas penser ainsi. Je devrais les comprendre, au contraire. Je devrais les pratiquer, ces enseignements du Shravakayana, tout autant que n'importe quel autre pratiquant du Shravakayana. Parce que sans cela, il n'y a ni Vajrayana, ni Mahamudra, ni Vajrayana. C'est vraiment le fondement, vous voyez? C'est la base. Et puis, en plus de cela, je peux aussi recevoir des enseignements du Mahayana ou du Bodhisattvayana, je peux engendrer l'esprit d'éveil, je peux étudier des enseignements de cette catégorie, et je peux les utiliser, et c'est possible. Si je ne le souhaite pas, si je ne souhaite pas utiliser les enseignements du Bodhisattvayana, alors c'est tout à fait, il n'y a aucun problème avec ça, c'est tout à fait possible. Si quelqu'un pratique les enseignements du Shravakayana et ne souhaite pas pratiquer d'autres enseignements, c'est tout à fait respectable. Mais si vous le souhaitez, alors vous pouvez également apprendre des enseignements du Bodhisattvayana et vous pouvez ainsi ajouter des techniques, des enseignements à ce que vous connaissez déjà. Et de même, en plus de ça, vous pouvez aussi pratiquer des pratiques du Vajrayana, des mantras. Donc ça marche un peu comme ça. il faut pas penser qu'il y aurait trois catégories de personnes très séparées qui pratiqueraient chacune ses enseignements propres. Il n'y a pas du tout cette compréhension-là. Donc c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre, je pense. Et puis, la question suivante, comment pouvons-nous nous entraîner à la patience vis-à-vis de ceux qui sont en position de pouvoir, qui font délibérément du mal à d'autres pour maintenir ou renforcer leur pouvoir, qui nuisent à l'environnement pour des causes de court terme, qui créent des guerres, qui accumulent du karma négatif pour eux-mêmes et leurs partisans. Rinpoche rigole et dit, bah déjà, on peut commencer par faire campagne contre eux. Nous pouvons faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir. Peut-être que nous devrions commencer par aller voter plus sincèrement ou plus régulièrement, en tout cas dans les pays démocratiques. En fait, vous pouvez faire et on doit faire tout ce qui est possible de faire. On peut pas dire je dois faire ceci ou je dois faire cela, parce qu'on peut pas le dire en général, faut faire ceci, faut faire cela, parce que ça dépend. En fait, chacun peut avoir ses difficultés propres, peut avoir des empêchements. Dans un pays, par exemple, où il y a beaucoup de répression, ce n'est pas facile, c'est très difficile, car dans ces pays, même ne dire qu'un seul mot à l'encontre des dirigeants fait encourir les risques pour votre vie, et pas seulement pour vous, mais même pour votre famille, pour vos amis. Donc, il y a tellement de problèmes, et ce sont des problèmes graves. Donc, quoi que nous puissions faire, nous devrions le faire, c'est l'idée. Et aussi, parfois, si nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre gouvernement ou de notre système ou de notre président ou autre, alors, l'idée que quand on ne peut pas se débarrasser de son gouvernement, il n'y a plus d'espoir, je pense que cette idée n'est pas correcte non plus. Au lieu de... Enfin, malgré le fait qu'on ait des mauvais leaders ou des mauvais politiciens, etc., ça ne nous empêche pas de faire des choses. Nous pouvons, malgré tout, essayer de faire des choses à notre niveau autant que possible, même si c'est des choses petites, nous pouvons agir à notre propre niveau. Et c'est tout le point, je pense. C'est ce que les gens devraient essayer de faire. Et c'est pas parce que je suis dans un pays où il y a beaucoup de répression, ou dans un pays où certaines parties de la population contrôlent tout et ne font pas les bonnes choses pour le pays ou pour le monde, c'est pas pour ça que je devrais devenir complètement démuni et perdre la foi et penser que je ne pourrais rien faire, que je suis capable de rien faire, que je devrais devenir triste, que je devrais devenir désespéré. Je pense que ça ne serait pas bien que ça arrive, ça ne serait pas correct. Je devrais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Donc, merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là.